Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, à la découverte de trois personnages issus d'époques différentes, mais qui avaient un point commun. Et qu'avec Mathieu, on adore faire se rencontrer. Hein. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, et cet après-midi, on va s'intéresser à ces personnages qui ont frisé la caricature et qui l'ont aussi souvent défrisé. L'art de la caricature, on le sait, est délicat. Par exemple, Stéphane, quand vous dites de Clémentine qu'elle est maquillée...
comme une voiture volée.
De Castello Lopez que dans sa jeunesse...
il grugeait les vieilles dames.
Et de Didier Poulce que la nuit, il se transforme et devient...
un peu libertine.
Vous forcez un peu le trait, comme l'ont fait nos personnages du jour.
Oui. Et ils ont forcé le trait au pinceau, au crayon ou à la plume. Ils ont donné ces lettres de noblesse à la caricature. D'abord, l'un des premiers, Honoré Daumier, qui dans les revues satiriques du 19e siècle s'en prenait pas toujours gentiment aux puissants. Puis le regretté Cabu, qui a lui aussi consacré toute sa vie à dessiner, à se moquer, à grossir le trait, jusqu'à être sauvagement assassiné ce 7 janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. 6 ans après, jour pour jour, plus qu'un récit, un hommage à celui qui est parti en nous laissant son sourire enfantin et des milliers de dessins. Quant à vous, Mathieu, vous évoquerez un personnage qui frise la caricature, une caricature de lui-même.
Oui, Stéphane, c'est avec des pincettes que je vous brosserai le portrait d'un acteur qu'on a étonnamment peu vu chez Ozon ou chez Romer, Chuck Norris. Un acteur qui ne sait jouer qu'une chose, Chuck Norris. Mais il le fait bien et suscite un véritable culte au premier et au second degré. Parmi ses répliques cultes, celle-ci, je donne fréquemment du sang à la Croix-Rouge, mais jamais le mien.
Et avec nous, comme chaque jour, sans jamais friser la caricature, elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs, et oui, aujourd'hui moi aussi je vais fêter un anniversaire, le 7 janvier 1841, il y a donc 180 ans, jour pour jour, enfin... Toto devient académicien. Toto, vous aurez reconnu Victor Hugo. Et c'est Juliette Drouet, sa maîtresse qu'il surnommait ainsi, qui se réjouit en ces termes de cette élection, aujourd'hui on dirait à l'arrache. Parce que, après plusieurs tentatives infructueuses, Hugo est enfin élu à l'Académie française. Et à cette occasion, eh bien, je vais pouvoir évoquer celui qui n'avait jamais cessé de voter contre lui systématiquement et dont, ironie du sort, Hugo hérita du fauteuil. Il fut donc mis devant l'obligation de faire l'éloge de celui-là même qui lui avait tiré constamment dans les pattes toutes les années précédentes.
C'est qui ?
Ah, vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Nepomucène Lemercier.
Merci. Vous le connaissiez évidemment, Stéphane.
De nom.
Que vous finirez à l'Académie française. Bah, tout de même.
Il faut se présenter à l'élection.
Oui, mais un jour vous présenterez.
Bah pourquoi ?
Pourquoi pas ? D'autres se
et
sont
puis,
présentés.
Moi, je ne veux pas finir, allez, je veux commencer.
Alors, très bien. Très
avec
bien.
Nous également, David Castelo Lopez.
Oui. De l'Académie portugaise.
Oui, alors, portugaise. Non, bah, parce que vous êtes là pour me donner les origines d'une invention, d'une trouvaille.
Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est
l'objet du quotidien.
C'est le Kawai.
Ah oui,
le Kawai, ça vous évoque des choses.
Ah
hein,
bah, le quotidien des années 70.
Oui, mais non, c'est redevenu à la mode, vous en parlerez
tout à l'heure.
Très tendance. Ouais. Enfin, très tendance, encore plus tendance, carrément, chez Bran, on peut le dire, le phare breton. C'est vraiment le gâteau qu'on a envie de déguster après les fêtes, après la galette des rois. Voilà. On a envie d'un bon phare breton.
Voilà, c'est ouais. Le bon moment. Vous êtes bien gavé pendant l'hiver. Une bonne galette des rois et maintenant un phare breton, parce que c'est très léger le phare breton.
Et d'où ça vient ? De Bretagne. Merci Olivier, très très belle chronique.
Très fort, hein.
On saura tout à l'heure sur le phare breton. Enfin, Stéphane, si certains hommes ont dû attendre longtemps avant de connaître l'amour, d'autres ont dû attendre encore plus longtemps pour connaître la victoire.
Et je suis puceau de ce côté-là.
Mais espérons plus pour longtemps. Une nouvelle chance vous sera donnée, Stéphane, vers 5h10 avec notre célèbre quiz Bern to be alive. Mais tout de suite, découvrons notre pionnier de la caricature. Stéphane Bern vous raconte l'histoire d'un certain Honoré Daumier.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
La libre communication des pensées, des opinions, est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Voilà ce que dit l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Honoré de Mier voit le jour à Marseille en 1808, 20 ans après la naissance juridique de la liberté d'expression. Armé de son crayon, il va en user pour défendre la cause républicaine et dépeindre la politique et les mœurs de son époque. Mais le défilé de régime politique du 19e siècle va, à coup de censure, lui mettre des bâtons dans les roues. En 1816, Honoré rejoint son père Jean-Baptiste Daumier, vitrier et poète à 16 heures, à Paris, où il s'est installé. À 12 ans, Honoré commence à travailler. Chez un huissier d'abord, où il découvre la traque que subissent les pauvres, incapables de régler leurs dettes. Puis chez un libraire du Palais Royal, près du Louvre, qu'il visite souvent. Ce qu'aime Honoré, c'est de dessiner. Son père accepte de montrer ses dessins à son ami Alexandre Lenoir, fondateur du musée des monuments français, alors administrateur du musée royal. Au premier coup d'œil, Lenoir est convaincu du talent de cet enfant. Daumier poursuit son apprentissage à ses côtés, puis à l'Académie suisse et à l'Académie Boudin. À 17 ans, Daumier apprend la lithographie chez l'éditeur Béliard. Cette technique de reproduction venue d'Allemagne consiste à imprimer sur papier, à l'aide d'une presse, un écrit ou un dessin fait au crayon gras sur une pierre calcaire. Elle permet donc la grande diffusion. En plein âge d'or de la presse, les illustrations se multiplient dans les pages des journaux. Leur impact est fort, sachant que la moitié de la population est illettrée. Ces lithographies, il en fera plus de 4000, Daumier les réalise pour les journaux républicains fondés par le journaliste Charles Philippon. La silhouette, puis la caricature et le charivari. En 1830, le pouvoir de Charles X est contesté par les libéraux, alors majoritaires à l'Assemblée. « Le roi, c'est moi », fait-il comprendre en proclamant ses 4 ordonnances au mois de juillet 1830, dont une soumet la presse à une censure rigoureuse. La révolution éclate et dure 3 jours. Au cours de ces 3 glorieuses, Daumier aurait reçu un coup de sabre au front. Louis-Philippe monte sur le trône et rétablit la liberté de la presse, faisant le bonheur des républicains. C'est la guerre de Philippon contre Philippe, dans laquelle Daumier assène ses coups de crayon auprès du journaliste. Et ils font mal. Prenons la lithographie Gargantua du nom du géant de Rabelais. Daumier la réalise en 1831 pour critiquer la fiscalité du régime. Louis-Philippe, obèse, trône sur une chaise percée à la place des étrons. Le séant royal laisse échapper brevets et décorations que s'empresse d'attraper des notables qui courent vers l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, des valets grimpent sur une échelle avec des hôtes remplis d'écus sur le dos. Direction la bouche ouverte de Louis-Philippe. Quelle surprise à leur arrivée en découvrant un fruit pourri. Le visage du roi dessiné par Daumier ressemble en effet à une grosse poire. Daumier reprend là l'analogie fruitière inventée par Philippon. Ce fut donc autour de cette poire tyrannique et maudite que se rassembla la grande bande de hurleurs patriotes, écrira Baudelaire.
Certains, on l'imagine Stéphane, ne se sont pas fendus la poire.
Ah, vous imaginez le scandale. La bourgeoisie et le régime sont ridiculisés. Exposé dans la vitrine de la caricature Galerie Véraud-Daudat à Paris, Gargantua suscite les foudres de la monarchie. Les exemplaires sont immédiatement saisis par la justice et la pierre lithographique est brisée pour empêcher toute reproduction. Daumier est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 500 francs d'amende pour incitation à la haine et au mépris du gouvernement. Mais rien ne l'arrête. L'année suivante, il réitère avec les blanchisseurs et la cour du roi Péto. Cette fois, c'est prison ferme et sans passer par la case départ. S'il attaque les oppresseurs, Honoré Daumier défend bien sûr les opprimés. En 1834, parti de Lyon, des révoltes républicaines secouent la France et sont très durement réprimées. Daumier l'illustre dans le massacre de la rue Transnonain, où l'on voit un ouvrier à peine sorti du lit gisant en tenue de nuit sur le cadavre de son enfant, mort lui aussi. Dans le ventre législatif, les députés sont monstrueux à l'image des événements qu'ils ont cautionnés. L'année suivante, des insurgés piègent le cortège royal boulevard du Temple. Bilan, 18 morts, 42 blessés et un bobo au front pour le roi. Cet attentat entraîne les lois de septembre, réduction de la liberté de presse, interdiction de se réclamer ouvertement républicain et de discuter des principes de la souveraineté. La clique de Philippon est directement visée. La caricature cesse de paraître, mais le charivari survit et se reconvertit dans la satire sociale. Daumier continue de crayonner contre la monarchie de Juillet, mais d'une manière détournée. Il se moque des bourgeois qu'elle entretient. Il réalise la série des Robert Macaire, archétype du bourgeois malhonnête, les types parisiens, les bas bleus ou encore Jean de Justice. C'est une véritable comédie humaine qui paraît dans le Charivari. Dans son appartement parisien où il réside avec son épouse Marie-Alexandrine, Daumier illustre d'ailleurs la comédie humaine de Balzac et d'autres ouvrages romantiques. En mai 1848, la Seconde République est proclamée. En novembre, la censure est levée. Et puis Pipoura ? Pas tout à fait. Daumier pressent que ce nouveau régime ne va pas durer. Répondant à un appel lancé aux artistes pour changer l'image officielle de l'État, Honoré Daumier réalise une allégorie de la République, mais son œuvre reste à l'état d'esquisse à l'image du nouveau régime. Car l'artiste, rappelons que Daumier n'est pas qu'un caricaturiste, comme disait Baudelaire, il est l'un des hommes les plus importants, non seulement de la caricature, mais de l'art moderne, voit d'un mauvais œil l'omniprésence dans la vie publique du neveu de Napoléon Ier, premier empereur des Français. Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République. C'est dans un climat politique tendu que Daumier réalise son génial colonel Ratapoil, partisan fanatique du prince président, symbole de la corruption électorale. Quand l'historien Jules Michelet voit la statuette de Ratapoil sculptée par Daumier, il s'écrie « Vous avez atteint en plein l'ennemi ». S'en suivent de nombreuses lithographies dans lesquelles Ratapoil a toujours un gourdin à la main. Quoi de mieux pour persuader le peuple ? Après le coup d'État du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon se fait élire président pour 10 ans avant d'opter, tant qu'à faire, pour le statut d'empereur l'année suivante. La presse est de nouveau muselée. Daumier s'investit dans la peinture et réalise de nombreuses toiles, dont un beau Don Quichotte, chevalier qui, comme lui, défend les opprimés. En 1870, le Second Empire s'effondre suite à la victoire de la Prusse à Sedan. Daumier dessine l'aigle impérial écrasé par un volume des Châtiments, recueil de poèmes dans lequel Victor Hugo prophétisait la chute de celui qu'il appelait Napoléon le Petit. S'il refuse la Légion d'honneur cette même année où la Troisième République est proclamée, Daumier accepte une pension de l'État car il connaît des difficultés financières. Il s'est installé avec son épouse à Valmondois près de Pontoise où son ami Corot lui a fait cadeau d'une maison. Pire qu'être sans le sou, quel est le comble pour un artiste ?
Perdre l'usage de ses mains ?
Ça aurait pu, Mathieu, mais c'est la vue que Daumier perd progressivement. En 1878, Victor Hugo organise une exposition en son honneur chez Durand-Ruel, à Paris. Aveugle et fatigué, Daumier ne peut y assister. Tant mieux, car elle ne rencontre, il faut bien le dire, aucun succès. Lui qui avait si bien eu l'œil pour représenter la politique et les mœurs de son temps meurt aveugle l'année suivante, à l'âge de 70 ans. Après un siècle de liberté de presse provisoire où la censure pointait le bout de son nez dès qu'un homme voulait affirmer son pouvoir, la loi sur la liberté de la presse, toujours en vigueur, est promulguée 2 ans après la mort de celui qui l'a le mieux exercé. Pourquoi vous me fixez comme ça, Mathieu ?
Je ne sais pas, j'essaie d'imaginer comment, en quel fruit vous aurez été caricaturé, vous, Stéphane Bern. Je me pose la question. Certainement pas en melon, vu que vous avez toujours su rester les pieds sur terre.
Ni en poire, parce que depuis Louis-Philippe, c'est mauvais genre. En pomme.
Une bonne pomme !
Bien ronde.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Honoré Daumier, le premier à avoir utilisé son crayon comme une arme, nous sommes avec l'historien des médias, Laurent Bille. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Bonjour Laurent Bille, vous êtes l'un des auteurs du livre « La caricature et si c'était sérieux » publié aux éditions du Nouveau Monde, après les attentats de janvier 2015, où l'on pensait jusque-là que mourir pour des dessins semblait réservé aux dictatures. Pourtant, on vient de le voir, dès 1830, la France a connu la répression des images. Honoré Daumier affronte la prison par 2 fois pour son irrévérence envers la monarchie de Juillet. Comment vit-il alors son incarcération ?
Je ne crois pas qu'on puisse bien vivre une incarcération avec tout ce que cela représente socialement. Maintenant, Sainte-Pélagie, la prison pour délit d'opinion, ce n'est pas non plus le Mont-Saint-Michel où sera enfermé plus tard Blanqui. C'est une prison parisienne. C'est aussi un lieu de sociabilité. Daumier écrit, il se plaint parce qu'il travaille trop en prison. Tous les prisonniers lui demandent leur portrait.
Ah oui,
donc il a dit, j'arrête pas, j'en peux plus.
Bon. C'est une star à l'époque.
Oui. Alors, c'est non, justement, ça le devient. C'est-à-dire que la prison,
ça a renforcé, la prison a renforcé son rôle social.
Il est entré quasiment étudiant, en tout cas, il est entré artiste en herbe en prison, et il en est sorti militant républicain. Donc, la prison fait vraiment sa légitimité. Il y trouve une reconnaissance personnelle qui le marque et change son destin. Évidemment, il se positionne comme l'une des signatures les plus engagées. La première, en fait, en ce qui concerne les satiristes.
Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de précédent. Lui, il est prêt à mourir pour ses idées. Enfin, il est prêt à aller, il est prêt à prendre des risques inconsidérés.
Non. Demier n'est pas un combattant et prêt à mourir. Brassens, hein, mourir pour des idées, d'accord. Mais de Morland, je crois que c'est ça les artistes et c'est ça l'arme du rire. Il s'agit justement de d'adopter une violence symbolique pour désamorcer la violence réelle. Mais une chose est certaine, c'est qu'avec le retour de la censure en 35, il a changé son fusil d'épaule. Il abandonne la caricature des hommes politiques, ce que l'on appelle la charge, avec les grosses têtes, les anamorphoses, les petits corps, les gros visages, pour une caricature dite de mœurs, où il brocade la bourgeoisie dans son quotidien. Et là, toute la société y passe. Avocats, profs, médecins, chasseurs, bourgeois, public snob, femmes, clientèle de café. Au-delà d'une vision de la société, il renouvelle une caricature de type. Hein, vous vous souvenez des physionomies? Eh bien, lui, il va incarner cette caricature de type avec son Robert Macaire, vous en avez parlé tout à l'heure, l'escroc, ou alors le colonel Ratapoil et Casse-Majou, qui sont des demi-soldes, qui sont en fait des casseurs de manifs. Ce sont des nervis qui vont tabasser, voire essayer de tuer les républicains.
Mais au fond, quand on regarde, par exemple, parce que cette métamorphose où on voit le portrait de Louis-Philippe devenir une grosse poire...
C'est Philippon.
C'est Philippon, mais après il a repris cette image, mais c'est cruel mais pas violent.
Mais Stéphane Bern, ce qui est violent, c'est jamais le dessin, c'est la viralité.
Oui.
À partir du moment où vous avez des graffitis partout, à partir du moment où une caricature, c'est pas grave, c'est quand elle est reprise, quand elle est reprise, quand elle est reprise. Et vous le savez mieux que personne, vous êtes un homme de médias. Et donc en fait, le début de Demier, c'est le début de l'âge des médias. Et donc, c'est cette viralité qui est absolument terrifiante, d'autant plus terrifiant qu'il a une force de travail absolument prodigieuse. Il va faire près de 4000 lithographies. C'est absolument fantastique. Et cette vision de la société va en faire un artiste à part. Cette intelligence de commuer la caricature politique en œil social. C'est ça qu'il installe au pinacle du genre.
Demier, il est à la fois un très grand peintre et un très grand caricaturiste. Enfin, quand on voit ses œuvres, c'est pas trois coups de crayon, quoi. C'est vraiment, il y a un grand travail d'artiste avant tout.
C'est un grand artiste, mais en même temps, c'est un artiste sans équivalence. Mais la peinture le consacre clairement comme un génie. Voilà. Donc, il a tout fait pour, je dirais, extirper la peinture du rigolo.
Mais oui, là, parce que c'est pas drôle quand on regarde, parce que j'ai été pour préparer cette émission, regarder le massacre de la rue Transnonain. C'est une œuvre terrible. Elle est pas drôle. Elle fait pas rire.
Non.
Elle critique la société et des drames humains.
Mais parce que le caricaturiste est de ce point de vue-là beaucoup plus proche du photojournaliste d'aujourd'hui. Que du dessinateur rigolo. Et c'est justement toute l'ambiguïté de la caricature. C'est son rapport au réel. Le rapport au réel est quelque chose qui fait du caricaturiste à la fois le défenseur du grotesque, du bouffon, de l'amalgame, de toutes les outrances, et en même temps, je vous le disais tout à l'heure, un œil social, un œil politique qui dévoile, qui montre et qui suscite l'indignation. Lorsque vous avez Charlie Hebdo qui fait la caricature du petit Aylan, c'est pas pour se moquer des enfants qui meurent, c'est pour dire ce que nous ne voyons plus par banalité, nous vous le donnons à voir autrement pour que l'indignation se poursuive. Et c'est tout ça le projet de Demier. Le projet de Demier, c'est justement de maintenir une alerte de l'œil.
De réveiller les consciences, vous
voulez dire. De maintenir les consciences éveillées ou d'éveiller les consciences. Maintenir les consciences éveillées également. Et c'est en ça qu'il va être détesté de la bourgeoisie, bien sûr.
Aujourd'hui, quand on voit une caricature de Demier, certaines en tout cas, on a parfois du mal à comprendre les références. La caricature, elle a une durée de vie limitée, par définition.
Et c'est justement là où la caricature politique se distingue de la caricature de mœurs. Bon, caricature de mœurs, c'est plus lisible. Alors, la caricature politique, on les comprend plus. Bon, caricature de mœurs brocarde une société disparue et elle sidère plus qu'elle ne font réellement rire. Hein. Je pense que c'est une caricature pour prof d'histoire. Alors, moi, ça m'amuse. mais je dirais que, voilà,
Transnonain. C'est l'archéologie, en fait.
Transnonain est plus fort. Maintenant, ce qu'il y a de tout à fait extraordinaire avec Demier, c'est justement sa capacité de transcender la vision sociale, de transcender le politique pour ne plus faire la caricature de quelqu'un, hein, l'avocat général Persil, par exemple, mais de la justice en général. Les avocats demeurent les avocats, et ce Persil, dont on ignore absolument qui ça a été, c'était celui qui poursuivait les dessinateurs et qui poursuivait les journaux, ce Persil est une allégorie de la justice répressive. Voilà.
En tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup, Laurent Bill. Je signale que vous venez de coordonner un dossier sur les caricatures anticléricales à la Belle Époque dans le magazine Historia qui sort aujourd'hui même en kiosque.
Si je puis rajouter quelque chose, Daumier fut aussi connu pour son anticléricalisme absolument militant.
Absolument, oui.
Voilà, et c'est aussi une des choses qui fait qu'il sera énormément repris par les dessinateurs de la période suivante.
Mais vous avez raison, il faut qu'on retrouve les caricaturistes du 19e. Il y a Daumier, il y a Philippon et puis il y a Gavarni aussi.
Très étonnant, Gavarni. Daumier atteint, alors moi je suis pas historien d'art, mais je vais bêtement vous donner la cote des salles des ventes. Pour un Daumier en salle des ventes, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a un magnifique Gavarni qui est passé le 10 décembre à Drouot et qui a fait 2000 euros.
Oh, Stéphane,
et donc, c'est absolument étonnant de voir la démonétisation d'un art qui a une telle importance médiatique, historique et politique. Parce que la caricature, ça reste malheureusement toujours un art, je dirais, négligé, dégradé, mais c'est toujours, je le rappelle, l'arme du faible contre le fort. Et c'est en ça que Daumier nous laisse un véritable héritage.
Ce qui est assez drôle, c'est que vous savez où est la statue de Gavarni à Paris? Elle est dans le 9e arrondissement, place Saint-Georges, face à l'hôtel d'Authier. Monsieur Thiers, l'hôtel où vivait Monsieur Thiers, devant, il y a la fontaine et la statue de Gavarni. Sauf qu'elle est au milieu de la place. Et si vous voulez, ceux qui conduisent un peu vite le soir rentrent chaque fois dans la fontaine.
C'est
donc
vrai.
Elle s'est vue. Chaque fois, elle est arrachée. Cette pauvre statue a eu beaucoup de...
Et rue Notre-Dame de Lorette. Oui. Les Lorettes étant ces jeunes filles à Corte que
voilà, disais jamais non.
Voilà, enfin, en tout cas qui passaient pour être à Corte, que Nestor Roqueplan avait baptisé Lorette et que Gavarni avait particulièrement bien dessiné.
Exactement. Mais ça, c'est quand même une ironie de l'histoire de voir que la statue de Gavarni et sa fontaine qui marche un jour sur deux est juste face à l'hôtel de Monsieur Thiers.
Et Stéphane, si vous voulez faire un jour une émission sur Gavarni ou sur Granville, je reviens avec plaisir.
Eh ben volontiers, on vous réinvitera. Merci beaucoup.
C'est moi.
Laurent
Merci.
Billy.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas la contester. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Moi aussi, j'accepte bien qu'on me titille un peu. Hein. Contrairement à ce que vous croyez, je n'ai pas la science infuse. Alors,
diffuse.
Oui, diffuse. J'ai plutôt la science diffuse, en effet. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du 7 janvier 1841, il y a donc 180 ans, jour pour jour, et de l'élection à l'Académie française de Victor Hugo. Et il va remplacer à l'Académie un certain Népomucène Lemercier. Donc,
attention, son prénom, c'est quoi?
Népomucène, c'est joli, non?
Ça s'est perdu un peu.
Mais je vous assure que ça reviendra à la mode.
Il y en a eu d'autres.
Népomucène.
Oui, alors moi, j'en connais pas d'autres personnellement, mais j'adore ce prénom. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous ne le connaissez pas, mais personne ne le connaît. Il a sombré dans l'oubli comme s'il n'avait jamais rien produit, alors qu'il était considéré par ses contemporains comme un vrai génie. Et ses œuvres se comptent par dizaines, 16 tragédies, 15 comédies. Oui, ne faites pas ces gros yeux. Mathieu, c'était un très grand auteur dramatique et son œuvre la plus applaudie fut Agamemnon en 1797. Agamemnon qui lui apporta la célébrité. Alors, si Nepomucène nous intéresse, c'est pas parce qu'il fut un écrivain vedette que nul ne lit plus nos jours. C'est le sort d'auteurs par dizaines. C'est parce qu'en tant qu'ennemi irréductible du romantisme, il s'opposa par deux fois à l'élection de Victor Hugo à l'Académie française. Alors, c'est en somme une sorte de nain littéraire qui refuse l'accès de l'Académie à un colosse de la littérature. C'est quand même assez extraordinaire. Et ce qu'il est aussi, c'est que lors de ses deux premiers échecs, Victor Hugo se vit souffler le fauteuil qu'il convoitait par messieurs Dupaty et Minier. Ça vous dit quelque chose, naturellement?
Non, rien du tout.
À la suite de ses revers, Victor Hugo présenta systématiquement sa candidature à chaque fauteuil vacant. Et oui, il est rentré à l'usure. Donc, il est à nouveau en lice en 1839, oui. Quand il l'apprend, Balzac, l'immense Balzac, retire sa propre candidature, car il jugeait le talent d'Hugo supérieur au sien. Eh bien, voyez-vous, cette considération, qui, pas plus qu'elle n'avait frappé Dupaty et Minier, que je viens de vous citer, ne sembla effleurer Michaud, Monsieur Michaud, face auquel Hugo échoua à nouveau cette année-là, 1839. C'est drôle, hein. Alors, quand il est élu, à qui succède-t-il ? À Nepomucène. Et ça le met donc dans l'obligation de prononcer lors de sa réception à l'Académie l'éloge de celui-là même qui n'avait jamais cessé de lui tirer dans les pattes. Avouez que ça manquait pas de sel quand même.
Ça a dû lui plaire.
Alors oui, mais alors comment se tirer de ce mauvais pas ? Comment complimenter une œuvre appartenant à une école littéraire dépassée, à un auteur à l'œuvre complexe, embrouillée, que Victor Hugo jugeait probablement indigeste et médiocre par rapport à la sienne ? Alors, il va prononcer son discours de réception le 5 juin 1841, donc juste un an après la mort de Nepomucène, et son éloge. Alors c'est délicieux parce que c'est un mélange de compliments et de critiques totalement déguisés. Il commence avec la flatterie, il commence par comparer Le Mercier à 6 des plus grands écrivains français qui résistèrent à Napoléon. Alors là, Nepomucène se retrouve en bonne compagnie avec des gens connus, Madame de Staël, Chateaubriand, Benjamin Constant, là c'est plutôt la classe. Mais ensuite, on se demande vraiment si c'est du lard et du cochon. Je cite Hugo. « Monsieur Le Mercier paraissait avoir mis autant d'amour-propre à se tenir toujours de plusieurs années en arrière des événements que d'autres en mettent à se précipiter en avant. Son opinion politique, dédaigneuse de ce qui lui semblait le caprice du jour, était toujours mise à la mode de l'an passé. » De nos jours, on dirait qu'il avait toujours un métro de retard, Le Mercier.
Il était réactionnaire.
Alors, Hugo raconte ensuite que sous la Révolution, Le Mercier assistait tous les matins aux séances de la Convention et qu'un jour, alors qu'il y arrivait plus tard qu'à l'ordinaire, l'une des tricoteuses, qui avait l'habitude de les voir tous les jours, dit à sa commère, et là je cite Victor Hugo, « Te mets pas là, c'est la place de l'idiot !» 4 ans plus tard, en 1797, l'idiot donnait à la France Agamemnon, Hugo, de l'art de faire semblant de dire du bien. Ouais. Et plus loin dans son propos, Hugo parle en ces termes de la panhypocrisiade. C'est l'œuvre monumentale et pompeuse en alexandrin dédiée à Dante par Nepomucène Le Mercier. Et je cite à nouveau Hugo. « Cette panhypocrisiade, qui est tout ensemble une épopée, une comédie et une satire, sorte de chimère littéraire, espèce de monstre à trois têtes qui chante, qui rit et qui aboie. » Alors, si c'est un compliment, avouez qu'il est curieusement troussé. En tout cas, Hugo finit son discours à l'Académie en disant que ce sera à la postérité de juger Le Mercier. Voilà. Et la postérité s'en est en effet chargée, hein, de Nepomucène, ouais. Ô combien, parce que quand on lit la notice qui lui est consacrée dans le dictionnaire Napoléon, on lit ses cruels premiers mots impitoyables, justement oubliés aujourd'hui.
Mais quelque part, ça m'a donné envie de découvrir l'œuvre de ce Nepomucène.
Alors moi, je possède personnellement une version originale, oui, de la panhypocrisiade de Nepomucène Le Mercier.
J'ai très bien un œil.
Alors je vous la porterai, mais je vous conseille plus sûrement d'aller peut-être pas Agamemnon du coup, parce que c'est vraiment très indigeste. mais je vous conseille surtout d'aller lire le discours de réception de Victor Hugo à l'Académie française. Tout ça est en ligne sur le site de l'Académie, et je vous en ai donné quelques extraits.
Ah, ouais, qu'on peut tous faire. À suivre, les amis, tempête sous deux crânes. Notre quiz va une fois de plus opposer Stéphane à Clémentine, affrontement déséquilibré en faveur de cette dernière, non, qui s'exclame souvent après la 8e mauvaise réponse d'affilée de Stéphane.
Qu'est-ce que c'est que ce mollasson ?
Ne perdons pas espoir.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
C'est l'heure du quiz pour eux et d'une prise de conscience pour moi. Longtemps, je le réalise aujourd'hui, j'ai outrageusement privilégié Clémentine Portier-Kaltenbach en la guidant vers la bonne réponse, voire en retranchant carrément des points, oui, à Stéphane. Vrai. La raison, je pensais, je ne sais pas pourquoi, que Clémentine était fan de moi. Je pensais qu'elle avait suivi avec beaucoup d'attention toute ma carrière à Europe 1, de la matinale au 16-18, et surtout ma carrière télévisuelle, où pendant 7 ans, j'ai fait les beaux jours de C'est à vous, l'émission phare de France 5. Jusqu'à hier, où j'ai découvert, hors antenne, qu'on était finalement bien peu de choses.
Mais moi, je suis là depuis 10 ans, environ 12 ans.
Quoi ?
Mais t'arrives à te faire copain avec tout le monde.
T'es là depuis 10 ans.
C'est une amitié, mais...
Non, il me semble que je t'ai vu dans C'est à vous, c'est à je sais pas quoi.
Je sais à je sais pas quoi. Bref, aujourd'hui, Stéphane, vous pouvez compter sur mon total soutien. Jouons à Bern to be alive, le quiz qui démontre chaque jour la culture générale de Stéphane Bern. Stéphane, première question. Oui. Attention, je ne vous donnerai aucun indice et je ne vous aiderai pas, mais regardez-moi quand même. En Italie, au 16e siècle, il y avait une mode appelée coltello da cucina. C'était... des couteaux. Le manche était en ivoire, la lame en acier, et sur elle, il était gravé des recettes de cuisine. Il en reste quelques-uns à travers le monde. Vrai ou faux, Stéphane? Je rappelle à Stéphane que je ne donnerai pas d'indice.
Non.
Aucun indice. Ah non. Ah non. Je ne donnerai pas d'indice, Stéphane.
Ah non, non, non.
Non, non, non. Je ne donnerai aucun indice.
Honnêtement, sur le manche ou sur la lame? Les recettes.
Je vous demande si ce genre de couteau a existé, qu'il en reste quelques mais exemplaires dans le monde.
Vous avez dit la recette sur la lame.
Oui, exactement.
Bah oui, mais si vous coupez un truc, ça n'a pas de sens. Là, vous voyez plus la recette.
Bah, si bah, vous avez bons yeux,
tu fais ta recette avec un autre couteau. Moi, ça me paraît possible. Hein. Ce ne seraient pas des recettes très élaborées, mais tu pourrais mettre, je ne sais pas quoi, la crème et mascarpone et spaghetti.
Ah, vous chantez les recettes. Ouais, c'est-à-dire ouais. Que, oui,
écoutez, je fais comme Podane.
Personnellement, non, je n'ai jamais entendu cette histoire.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse de Stéphane, mais il a existé à la même époque des couteaux de notation. Ce n'étaient pas des recettes, mais des partitions musicales qui étaient gravées. Il y avait des paroles en latin, des notes. Généralement, c'était des grâces à chanter après le repas.
Ah, ah tu bah vois, voilà.
Une fois que la lame chaussée était servie.
Chaussée au moine.
Non. Ça va être retenu contre vous, vous savez.
Non, et bah pas du tout, parce que c'est une des anciennes, les plus vénérables de l'histoire de la musique. C'est une
quoi for...
bah c'est
ah oui, pas chaussée
c'est
au moine.
Pas chaussée au moine, mais cette fin là, voilà dans le chant grégorien. Non mais perdez pas une occasion de vous cultiver avec vos couteaux de recettes de cuisine là.
Stéphane mène le quiz 1-0.
Bah, c'est ce que je vois avec
tristesse. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. On sait que le salut nazi était loin d'être une invention d'Hitler. Sous l'Empire romain, on s'en servait pour exprimer une allégeance à de hauts dignitaires.
Valet, senex imperator.
Vous voulez quoi? Glaner des points avant même la
question.
Dire
salut, vieil empereur.
Oui, je vous remercie. Vous êtes
il n'est pas vieux, il est juste un peu âgé. Ouais. Il a été aussi utilisé, ce salut, en 1920, comme salut olympique. Vrai ou faux?
Je pense que c'est vrai. Il était alors encore déconnecté de la signification que lui ont donné de façon définitive les nazis en Allemagne. Donc je pense que c'est vrai, oui.
Vous avez gagné.
Excellente réponse de Clémentine Portier-Caldenac. C'est Pierre de Coubertin lui-même qui s'est servi de ce salut au jeu d'Anvers en Belgique. On l'appelait alors le salut de Joinville. Puis après la Seconde Guerre mondiale, on a finalement trouvé que c'était pas top. Et donc ce salut est tombé en déshérence. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Est-ce que Eugène Poubelle a pu manger un croque-monsieur? Oui ou non, d'après vous?
Oui, bien sûr.
Alors, attendez. Eugène Poubelle était le préfet de Paris à la fin du 19e siècle. C'est lui d'ailleurs.
Il n'était pas tout à fait le préfet de Paris, mais enfin, il était le préfet de la Seine.
Voilà.
Soyons précis, Stéphane, avec nos auditeurs qui attendent
grâce
de autre
à lui
chose
que nous avons nos poubelles. Voilà, puisqu'il a donné son nom. Parce que Paris, c'était pas possible. Oui,
et le croque-monsieur, on en a déjà parlé, Stéphane, souvenez-vous. C'était au trou dans le mur, boulevard des Capucines. Une recette apportée par les Anglais.
Exactement.
Donc, bien sûr, moi, je pense que oui.
Mais ce n'est pas votre question, Clémentine.
C'est pas grave, j'ai de mon copain.
Laissez Stéphane réfléchir par lui-même.
Alors, maintenant, est-ce qu'on l'a obligé à manger?
Ce n'est pas la question. Eugène Poubelle a-t-il pu manger de son plein gré un croque-monsieur?
Écoutez, en
oui
fait,
non,
bah, il
de
n'aimait
son plein gré.
Il n'aimait pas ça. Mais oui,
vous me désolez.
Oui, il a pu.
Vous avez...
Ne jamais,
merci ma
jamais
copine.
Écouter Clémentine, surtout quand elle a l'air très sûre d'elle-même.
Oh, bah, du tout, ça doit être très proche alors.
Écoute,
c'est ça
Eugène Poubelle, ancien préfet de la Seine, est mort en 1907 comme Alfred Jarry. Le croque-monsieur a été inventé, nous en avons parlé
Bien sûr.
En 1910.
Non, c'est faux.
En 1910.
Non, c'est faux, c'est totalement faux.
En 1910,
par un bistrotier parisien. Non, c'est faux, c'est bien antérieur.
Et vous
c'est
savez,
pas 1910. Non,
vous
non,
pouvez vous rattraper. Qui a inventé le croque-madame, vous le savez?
Vous nous l'avez déjà dit, j'ai oublié, je m'en fous.
Je ne le voulais pas dit, puisque moi non plus, je n'ai pas la réponse.
Qui a inventé le crème?
Nous demanderons une vérification.
C'est faux, c'est pas 1907 le croque-monsieur. Ça, alors là, je m'inscris
non,
en faux.
Non, le préfet de la Seine est mort en 1907. Le croque-monsieur, c'est 1910.
Ah, je suis sûr que c'est faux.
Il s'agit de 1910.
Bon.
Et
d'accord,
nous vérifierons. Question numéro 4 pour vous, Clémentine, puisque là, vous avez beaucoup parlé,
vous n'avez
pas encore votre question.
Oui.
Alors attention, c'est une question très complexe. En 2019, nous avons perdu Jacques Chirac. En 2020, nous avons perdu Giscard, deux grands amis de l'Afrique. La preuve, sur Europe 1, Valérie Giscard d'Estaing a déclaré que Jacques Chirac avait financé sa campagne de 81 avec l'aide financière d'Omar Bongo, l'ancien président de la République gabonaise. Deux propositions. Il existe une chanson gabonaise qui dit « Bongo est l'ami de Giscard, Giscard est l'ami de Bongo » ou « Bongo est l'ami de Chirac, Chirac est l'ami de Bongo ». Laquelle de ces deux chansons gabonaises existe ?
Je pense plutôt celle avec Chirac qu'avec Giscard. Parce que Giscard, on l'a tellement associé au diamant de Bokassa. Non, je dirais plutôt Chirac.
Je vous propose d'écouter la réponse.
Bongo est l'ami de Giscard.
Ah oui. Giscard est l'ami de Bongo. Elle est très bien, cette chanson.
Bongo est l'ami de Giscard. La France est l'ami du Gabon.
Et oui, c'était Giscard, l'ami de Bongo, titre interprété par Chibanga en 1976 et que je vous invite à rajouter sur vos playlists de fêtes. Un tube vraiment dansant. Et c'est encore une mauvaise réponse pour Clémentine après le croque-monsieur de 1910.
Vous m'avez déprimé avec votre croque-monsieur. Puis de toute façon, votre musique de fête, vu qu'on peut pas être plus de 6 dans un appartement.
Mais
oui, mais Bongo et Giscard, ça suffit à soi.
On imagine très bien Stéphane tout seul dans son salon, grouvant voilà.
Ça me fait
sur Bongo
soirée,
et Giscard. Ouais.
Ça me
fait on s'appelle soirée. En FaceTime la prochaine fois que
tout
tu fais
seul
ça.
Tout seul sautant sur son lit à baldaquin.
L'ultime question est là, sous mes yeux. Oui. C'est la question qui va vous départager, mais la
oui,
question de rapidité.
Mais...
En 1925, Howard Carter découvre le poignard du pharaon Toutankhamon à pommeau de cristal de roche et manche en or serti de pierres précieuses. Quelle est son autre particularité à ce poignard ?
C'est
trois propositions.
Ah oui,
Attention, je ne veux pas de réponse avant, sinon vous êtes disqualifié. Sur le manche sont gravées les initiales de Toutankhamon ainsi que celles de son épouse, Akessé Senamone. Sur son fourreau, il est inscrit « Made in China ». Ou, plus fort encore, Stéphane, la lame est d'origine extraterrestre.
C'est la 3.
Stéphane, vous avez pêché par votre lenteur. La bonne réponse a été donnée avant vous
mais
par Clémentine Portier.
En fait, vous êtes tous ligués contre
la
moi.
La lame est d'origine extraterrestre.
J'ai dit 3 tout de suite.
Comprenez que le métal utilisé vient forcément d'une météorite. Mmh. Après des analyses spectrométriques de fluorescence de rayons X, il est établi qu'il y a une concentration de nickel à hauteur de 10%, alors que le minerai terrestre n'en contient que 4. Pour l'instant, c'est Clémentine qui remporte le quiz. Seulement voilà, Olivier Pouls, notre expert gastronomique, vient d'entrer dans le studio pour vérifier cette histoire de croque-monsieur, qui est importante. Toute la France nous écoute.
Parce
la France est
suspendue. D'accord que c'est 1910, Olivier.
Le croque-monsieur est-il inventé ou non en 1910 ?
La légende prétend que oui, au café Le Bel Âge à Paris, non loin de l'Opéra, où le patron, on prêtait au patron des habitudes un petit peu bizarres. Certains prétendaient qu'il était cannibale. Et donc un jour, quelqu'un se fait servir ce sandwich donc de deux pains toastés. On lui il demande mais qu'est-ce que c'est ? Et on lui dit c'est du monsieur. Et donc l'appellation croque-monsieur serait née de là, en 1910 effectivement, au Bel Âge.
Et donc vous confirmez
la date.
1910.
Ah, mais alors attention.
Oh, elle va retomber sur ses pattes.
C'est le nom du croque-monsieur, mais moi j'en tiens pour un restaurant dans le même coin en effet, et qui s'appelait Le Trou dans le Mur, où on servait à l'anglais ce pain toasté avec du jambon et du fromage. Alors est-ce
qu'il s'agit du nom ou la recette exacte, évidemment, du pain, du fromage et du jambon, ça existe depuis un petit bout de temps.
Mais est-ce qu'un croque-monsieur appeler un croque-monsieur.
Voilà. C'est une question.
Pareil
à croque-monsieur, on demandera à David Castillo-Lopez.
Moi, je pense qu'il faut demander à Donald Trump qui s'y connaît.
Probablement, nous demanderons. Et à Didier Raoult que nous appellerons pour savoir si le croque-monsieur est né ou non en 1910. Victoire néanmoins de Clémentine Portier-Kaltenbach.
Non mais vous
même
continuez.
Quand j'essaye de vous aider, ça, vous ne suivez pas.
Oui, vous avez dit non au début sur le couteau, là. Attendez, hein.
h 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur de l'émission qui chérit vos zygomatiques tout en astiquant vos neurones. Qui chérit et qui astique dans le duo que je forme avec Stéphane Bern, ça je vous laisse le deviner. Aujourd'hui Stéphane, nous partons à la rencontre de ces personnages qui ont défrisé la caricature.
Oui Mathieu, après le pionnier Honoré d'Aubier, je vais rendre hommage à un dessinateur de génie qui nous manque terriblement, 6 ans, jour pour jour après sa disparition. Je vous raconte le destin du génial Cabu. De votre côté, Mathieu, vous vous pencherez sur le parcours d'un comédien qui, je crois, avait été recalé au concours d'entrée de la Comédie Française.
Oui, mais de peu. Chuck Norris. Texas Ranger à l'écran, partisan acharné de Donald Trump à la ville, gros bras partout. Un acteur qu'évidemment vous connaissez par cœur, Stéphane.
C'est un type qui fait de la fight.
Voilà, j'essaie d'être un peu plus précis que vous, mais en gros c'est ça.
Oui, alors eux, qui sont dans le studio avec nous, ils sont d'une précision redoutable, sont nos chroniqueurs. David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines de ce qu'on portait quand il pleuvait dans les années 60.
Toujours, c'est vrai, mais à nouveau peut-être.
Et ouais, ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. Ouais,
voilà. Ah, parce que moi j'avais, c'était sous forme de banane.
Exactement, on pouvait le rouler en banane et ensuite quand on le déroulait, ça faisait qu'un truc tout froissé.
Tout froissé, mais on l'avait autour de la taille.
On parle du caouet.
On parle du caouet, on n'a pas précisé le mot.
Effectivement, on l'avait déjà dit en début d'émission. Ceux qui nous écoutent depuis une heure.
Et pour ceux qui nous rejoignent.
Imaginons que des gens nous rejoignent comme ça. Ils sont sur la route, ils rentrent du travail.
De quoi ils parlent? Ils disent, de quoi ils parlent?
De banane, ils imaginent tout et n'importe quoi.
Dans la banane, il y avait un caouet. Voilà. Et alors, Olivier Pouls va nous parler d'une recette merveilleuse, un truc light, vous voyez.
Idéal pour se remettre des
avec du bon beurre breton.
Oui, parce que je pense que vous n'avez pas mangé beaucoup, en tout cas peut-être pas tous à votre faim.
Très
là.
Peu.
Non. Il faut prendre encore un peu de calories. Le phare breton, F-A-R évidemment, pas celui qui éclaire les bateaux.
c'était bien vu le combo, ça donne envie d'écouter. Le mot de la fin reviendra évidemment à Stéphane Bern avec chaque jour. Vous décortiquez pour nous une expression commune, se faire alpaguer.
Oui.
Rien à voir avec les alpagas. Quoi ? Non, c'est con,
vous avez
pardon.
Peur de dire une connerie.
Oui,
vous croyez dire une connerie, vous dites une chose juste. C'est fou.
Les alpagas, l'animal, se faire alpaguer, ça a à voir ?
Mais oui.
Oh bah alors, il faut que j'arrête de réfléchir. Non, il faut que j'abolisse la réflexion, c'est comme ça que j'ai les bonnes intuitions.
Exactement.
Tout de suite, les amis, penchons-nous sur le destin d'un grand nom de la caricature, un artiste et un homme épatant parti beaucoup trop tôt, il y a 6 ans, jour pour jour. Stéphane Bern nous raconte Cabu.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
On peut rire de tout.
Mais pas avec n'importe qui.
Surtout si ça fait réfléchir, disait Cabu. Surnommé le Daumier du XXe siècle, son assassinat lors des attentats du 7 janvier 2015 perpétrés contre la rédaction de Charlie Hebdo a traumatisé le pays et laissé un vide immense dans le monde du dessin de presse. Le 8 février 2006, Cabu signe la couverture de Charlie Hebdo qui publie ce jour-là 12 caricatures de Mahomet déjà publiées par le quotidien danois Jyllands-Posten par solidarité et par principe avec pour titre « Mahomet débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons ». Le dessinateur, présent depuis les débuts du journal en 1970, dénonce là l'intégrisme islamiste au même titre que toutes les formes d'autorité qui sont passées au crible par son crayon, depuis longtemps déjà. Et pour toujours. Cabu, c'est un trait de crayon ou de plume, et une vie tout entière consacrée à cette drôle d'activité. Jean Cabu est né en 1938 à Chalon-sur-Marne. Son père, Marcel, peintre amateur, est professeur à l'École normale supérieure des arts et métiers. Le petit Jean est fan du caricaturiste Dubout, qui lui donne l'envie de dessiner. Il est abonné à l'hebdomadaire catholique Cœur Vaillant, non pas pour y décrypter le mystère de la foi, mais plutôt pour les aventures de Tintin qui y sont publiées chaque semaine. Un jour, le magazine organise un concours de dessin pour la marque de stylo Météor. Ni une ni deux, Cabu attrape son crayon et dessine un bonhomme les pieds sur une table, un stylo qui marche à ses côtés. Parfait pour illustrer son slogan « Le stylo qui marche tout seul ». Cabu a 12 ans, une imagination débordante et vient de gagner un beau vélo. Suite à ce premier prix, il aura toujours une feuille à 4 et un crayon en poche. Dessinateur compulsif, on raconte même qu'il dessine parfois directement dans sa poche sans regarder. Au lycée, Cabu crée un journal satirique, Le Petit Fums, où il croque ses camarades des autres filières. Les bacs techno lui cassent la gueule et menacent de recommencer s'il poursuit dans la moquerie. Ce ne sera pas la peine, car Cabu est victime déjà de sa première censure. Le proviseur n'a pas apprécié son talent, visiblement. À 14 ans, Cabu expose à Chalon au peigne d'or, chez son coiffeur. En échange de quoi, il a une coupe gratuite, mais pas encore au bol. L'année suivante, ses dessins sont publiés dans le journal rémois L'Union, issu de la Résistance qui lui ouvre ses colonnes. S'affirme alors sa double vocation de dessinateur et de journaliste. 2 ans plus tard, Cabu s'installe à Paris. Il est apprenti dans un studio de dessin publicitaire. Il suit des cours d'art graphique à l'école Estienne, puis à l'Académie Julian. En 1957, il fait ses premiers dessins pour Paris Match et illustre son premier livre, Le Dictionnaire de l'humour, de Roger Pichon. Mais sa vie parisienne est brusquement interrompue. Cabu est mobilisé pour la guerre d'Algérie. Il passe 27 mois comme deuxième classe dans un régiment de zouaves. S'il ne tue personne, il voit de nombreux cadavres. Il ne supporte pas le traitement accordé aux troufions qui doivent porter des jerricanes de 20 litres d'eau sous le soleil d'août pendant que le général se fait livrer du champagne en hélico. D'où son personnage emblématique de l'adjudant Cronenbourg, militaire caricatural aussi alcoolique qu'abruti. Cabu collabore au journal Le Bled, dans lequel il raconte les aventures de la fille du colonel et la vie de la caserne. Ses dessins lui valent plusieurs procès pour atteinte au moral des troupes. C'est avec un esprit de révolte viscérale à l'égard de l'armée que Cabu rentre d'Algérie en 1960. Cette même année est lancé le journal Harakiri par François Cavanna et Georges Bernier, vite surnommé le professeur Choron, du nom de la rue du 9e arrondissement où se trouvent des locaux. Les réclames sont provocantes. Si vous avez de l'argent à foutre en l'air, achetez Harakiri, sinon volez-le. Le journal attire vite de nombreux dessinateurs qui deviendront des noms. Fred, Reiser, GB, Topor, Volinsky et Cabu, qui signe alors son premier dessin dans le numéro 3 d'Harakiri en décembre 1960. La devise « Un journal bête et méchant » apparaît au 7e numéro suite au courrier des lecteurs nombreux et pas toujours contents. Le gouvernement, raillé comme jamais, ne l'est pas non plus et interdit régulièrement Harakiri pour outrage aux bonnes mœurs. À partir de 1962, Cabu collabore au magazine Pilote dans lequel est né Astérix. Lui donne naissance au Grand Duduche, lycéen écolo, amoureux transi de la fille du proviseur allergique à toute forme d'autorité. Tiens, ça me rappelle quelqu'un.
Moi ?
Non, lui. Une chevelure hirsute, d'étranges petites lunettes à monture d'acier, un accoutrement qui doit plus à la fantaisie qu'aux exigences de la mode, des yeux candides, un sourire de cancre malicieux, c'est le Grand Duduche. Et c'est aussi Cabu, analysera un certain Goscinny. Les interdictions d'Harakiri se multiplient. En 1965, les confrères se taisent, personne ne les soutient. Comme si on était une bande de voyous dans un coin, dira le professeur Choron. En 1970, une nouvelle interdiction tombe suite à la une de l'hebdo d'Harakiri. Un titre noir sur blanc annonce la mort du général de Gaulle. Balle tragique à Colombey, un mort. Là, tout le monde se mobilise. Il faut dire que la censure vient du ministre de l'Intérieur, Marcelin, grand ami des CRS et beaucoup moins des journalistes. Harakiri Hebdo troque son titre pour le surnom de Gaulle, devenant alors Charlie Hebdo. À l'image des héros de bande dessinée, les aventures de Cabu sont variées. S'il est avant tout un dessinateur politique, il garde toujours son âme d'enfant. Personne n'a oublié dans les années 80 ses dessins aux côtés de Dorothée qu'il caricaturait avec un grand nez resté célèbre dans l'émission Récréa 2. Et en 85, le beauf, son archétype du français moyen, réac, chauvin, misogyne, buveur de pastis et joueur de pétanque, entre dans le dictionnaire. Au long de ses 55 ans de carrière, Cabu a mis son imagination et son talent au service d'un nombre vertigineux de journaux d'actualité ou plus engagés comme La Grosse Bertha, L'Enragé, Action et bien sûr Le Canard Enchaîné dont il est un des piliers de 1982 à 2015. S'il n'avait pas été dessinateur, Cabu aurait aimé être batteur dans un groupe de jazz. C'est souvent au rythme des musiques de Charles Trenet qu'il dessine. Mais son artiste préféré, c'est Cab Calloway. Alors forcément, on comprend pourquoi il n'est pas fan de Johnny. Il nous vérole les tympans depuis que je suis né, il me casse les oreilles, ça continue, s'exaspérer Cabu, qui n'a pas manqué de le caricaturer durant toute sa vie. Lors des commémorations des attentats de janvier 2015, ce n'est pourtant pas Cab Calloway, c'est vrai qu'il était mort 10 ans auparavant, mais c'est bien Johnny qui a chanté. Pour le rebelle ciné, ancien dessinateur à Charlie Hebdo, lui aussi, quand il y a une connerie à faire, on peut compter sur nos responsables, il ne la rate jamais. Cabu, lui, a dû bien en rire. Sans oublier, comme il le disait lui-même, que le dessinateur de presse est forcément contre tout, il lui est difficile de dire du bien de quelqu'un. Alors, en ce triste jour d'anniversaire, il était important pour nous de dire tout le bien qu'on pense de lui.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour continuer à rendre hommage à Cabu, aujourd'hui nous sommes avec l'historien Christian Delporte qui publie Charlie Hebdo, la folle histoire d'un journal pas comme les autres. Bonjour Christian Delporte.
Bonjour.
Bonjour. Ce journal pas comme les autres, Vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez lu? Vous l'avez tout de suite trouvé pas comme les autres, et pourquoi?
Oui, je m'en souviens très bien, c'était en 1974. J'avais 16 ans et j'avais été subjugué par la puissance des dessins du journal, notamment de ceux de Reiser et de Cabu, leur humour insolent, l'absence totale de limites, de tabous, de respect des conventions. Et à l'époque, c'était une bouffée d'air frais dans le paysage d'une presse très conventionnelle, incapable de parler à la jeunesse. Parce que par le ton, la façon de tutoyer le lecteur, par la profusion des dessins, déclinés sous toutes leurs formes, Charlie, à cette époque, c'était déjà un journal pas comme les autres.
Mmh. Christian Delporte, vous dirigez la revue Le Temps des médias, vous êtes spécialiste de la caricature. Comment est-ce qu'elle a évolué à travers les époques et le temps? Parce que on parlait tout à l'heure d'Honoré Daumier jusqu'à Cabu. Il y a un gouffre, ou est-ce que vous pensez que l'ambition de départ et le travail restent le même?
Alors bien sûr, la caricature a changé, elle s'est dépouillée, s'est simplifiée pour s'adapter à la presse moderne, à la typographie. Les caricaturistes du 19e siècle étaient d'abord des artistes peintres qui publiaient dans les journaux. Au 20e siècle, les dessinateurs sont devenus des journalistes, c'est-à-dire qu'ils suivent l'actualité au plus près, ils font de leurs dessins un véritable éditorial. Mais dans le fond, je crois que la vocation de la caricature est restée la même. La caricature, c'est une charge, l'expression d'un regard critique. C'est aussi une émotion. Elle doit être comprise dès le premier coup d'œil, provoquer un choc, un rire franc ou un rire jaune. Et Cabu, d'ailleurs, aimait citer ce mot de Cavana qui disait qu'un bon dessin, c'était d'abord un coup de poing dans la gueule.
C'était quoi justement la particularité de Cabu, parce qu'il y en a beaucoup des grands caricaturistes. Lui, c'est simple, efficace, artisanal, comme vous l'écrivez dans votre livre consacré à l'histoire de Charlie Hebdo. C'était ça, sa patte?
Ouais, je crois d'abord que Cabu, c'est sans doute le plus grand caricaturiste de son temps. Dans la profession, c'était un peu le patron. Quand un nouvel homme ou une nouvelle femme politique surgissait dans la vie publique, eh bien tous les dessinateurs attendaient et se demandaient comment Cabu va-t-il le ou la dessiner. Et aussitôt, les traits qu'il donnait au nouveau personnage public s'imposaient spontanément. Mais à sa maîtrise de la caricature, à son talent d'observation, il ajoutait une qualité fondamentale, c'est-à-dire qu'il bouillonnait d'idées. Car il n'y a pas une bonne caricature sans l'idée qui fait mouche et les mots qui l'accompagnent, le titre, la légende, la bulle. Et de tous les excellents dessinateurs de Charlie, Cabu était de loin le plus productif. Dans les fameuses séances de bouclage du lundi, il en produisait 3, 4, 5 fois plus que ses confrères. Et ça faisait évidemment l'admiration de tous. C'est aussi pour ça qu'il était le patron.
Mmh. Quelques mois avant les attentats de Charlie qui lui ont coûté la vie, Cabu confiait dans une interview au Parisien que dessiner n'est pas une démarche militante. L'envie, c'est d'abord de faire rire ou de faire sourire. Je ne délivre pas de message. Vous êtes d'accord? Pourtant, il a mené des combats, Cabu. Le pacifisme, l'écologie, la liberté d'expression, la tolérance. Il était engagé, en quelque sorte.
La caricature, par nature, est impertinente, elle est transgressive. Et du coup, elle est clivante. Elle ignore la tiédeur, le consensus, les bons sentiments, le bon goût. Elle n'a pas vocation à faire plaisir à tout le monde. Pour autant, la caricature, c'est pas un manifeste politique. Cabu tapait sur tout le monde. Et sur tout ce qui lui semblait absurde dans notre société. Tout ce qui, à ses yeux, entravait la liberté. Tout ce qui, pour lui, empêchait de réfléchir librement. Il avait des convictions, il s'en cachait pas. Mais adhérer à un parti politique, pour lui, c'était totalement incompatible avec sa farouche volonté de rester un homme libre. Alors, il avait des convictions, il les défendait bec et ongles, mais on ne peut pas dire que Cabu était un doux rêveur, un éternel grand duduche. Sa façon de s'engager, c'était d'offrir gratuitement son crayon à ceux qui le sollicitaient, et ils étaient nombreux. Les pacifistes, les antimilitaristes, et surtout les écologistes, dont il se sentait très proche. Il n'a jamais adhéré au Parti des Verts, mais il ne cachait pas sa sympathie pour eux. Cabu, c'était une crème d'homme, mais quand quelque chose ou quelqu'un l'indignait, il pouvait entrer dans des colères noires qui pétrifiaient son ou ses interlocuteurs. Elles étaient aussi rares que mémorables.
Christian Delporte, vous avez publié, on le disait, une riche anthologie de Charlie Hebdo parue chez Flammarion. Charlie Hebdo, la folle histoire d'un journal pas comme les autres. Tellement pas comme les autres, finalement, qu'il reste aujourd'hui le seul hebdomadaire satirique de dessinateur. Comment vous expliquez ça?
Je pense qu'il y a un double phénomène. D'abord, le déclin de la presse écrite, en général. Les journaux satiriques, indépendants, sans publicité, ne trouvent pas suffisamment de lecteurs pour survivre. Et à vrai dire, ça a commencé dans les années 50-60. Ensuite, le dessin de presse n'attire plus les jeunes dessinateurs, bien davantage attirés par la bande dessinée. Mais la caricature a trouvé d'autres formes d'expression, comme les marionnettes des guignols de l'info jusqu'à récemment. Et aujourd'hui, de nombreux dessinateurs s'expriment d'abord par les réseaux sociaux, ce qui est sans doute l'un des meilleurs moyens de toucher un public jeune.
Cabu, évidemment, il y a des personnages qui restent dans ceux qu'il a dessinés, le grand Duduche, le Beauf. Mais c'est vrai qu'il se moquait beaucoup de l'armée. Il faut dire, je racontais tout à l'heure ce qu'il avait vécu en Algérie avant son retour en 1960. Il a d'ailleurs été condamné plusieurs fois pour injure envers l'armée. Est-ce qu'il en tirait quelque fierté, quelque gloire d'avoir été condamné?
Alors c'est vrai, dans les années 70, l'armée lui a fait 11 procès pour injure. Il les a tous perdus. À vrai dire, il se serait bien passé de ces poursuites qui ont toujours un coût financier pour le journal qui les subit. Alors, fierté, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Cabu n'a jamais rien cédé, jamais accepté de concéder la moindre parcelle de sa liberté d'expression. Et c'est pourquoi il reste un modèle pour les dessinateurs.
Cabu est tombé, on le sait, sous les balles des terroristes le 7 janvier 2015, il y a 6 ans aujourd'hui, jour pour jour. Quel souvenir global vous gardez de lui? Vous vous souvenez par exemple de la dernière fois où vous l'avez vu ou de ce que vous vous êtes dit?
Alors moi, ce que je retiens, c'est sa fulgurance. C'est l'incroyable vivacité d'une imagination qui est combinée à une exceptionnelle maîtrise du trait. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Alors la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le petit bistrot que fréquentent les journalistes du Canard Enchaîné. Je lui avais apporté un dessin ancien, non signé, que j'avais trouvé dans une brocante. J'étais sûr qu'il était de lui. Et en le voyant, il me l'a confirmé. Le dessin était paru dans le Figaro, il a dessiné dans le Figaro, au début des années 60. Ça l'a fait rire, il a parlé de ce temps-là, et à un moment, il a saisi le dessin et l'a signé. L'artiste a donc authentifié son œuvre, et je dois dire, pour mon plus grand plaisir.
On peut le dire aussi, c'était un homme absolument charmant.
Dans la vie.
Et dans la vie, voilà. Merci beaucoup Christian Delporte. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui retrace les 50 ans de Charlie. Charlie Hebdo, la folle histoire d'un journal pas comme les autres, aux éditions Flammarion. Et pour continuer à rire avec Cabu, l'exposition Le Rire de Cabu à l'Hôtel de Ville de Paris, qui devrait, on l'espère tous vraiment, rouvrir dans quelques jours. Merci beaucoup.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces figures de l'histoire qui ont excellé dans l'art de la caricature. Après Honoré Daumier et Cabu, vous nous parlez à présent, Mathieu, d'un acteur contemporain qui excelle dans la caricature, mais celle de lui-même.
Oui Stéphane, si je vous dis une figure de l'Ouest, aussi droit dans ses bottes qu'à droite politiquement et que personne n'a jamais vu sourire...
Philippe Devilliers.
Pas loin, Chuck Norris. Un nom si évocateur que le seul fait de dire Chuck Norris est déjà le doux fumé des pancakes taquines nos narines. Nous ne sommes plus dans le studio Coluche, mais dans un diner d'Austin, Texas, où David et Oliver, deux cow-boys n'ayant jamais vu le secret de Brokeback Mountain, viennent de commander un double milkshake Oreo Cookies pour accompagner leurs scrambled eggs, pendant que leur vieux buddy, Stephen, termine un rodéo sur Mustang. Bienvenue au pays des rednecks, ce Texas authentique où les idées démocrates n'ont pas encore instillé leur poison progressiste et où les hommes sont encore des bonhommes qui portent des Santiago et pas des Stan Smith. Chuck Norris, qui est d'ailleurs natif de l'Oklahoma voisin, c'est l'antithèse, si vous voulez, du métrosexuel tel que l'incarne aujourd'hui David Castello-Lopez et trois quarts des trentenaires urbains qui ont sciemment et définitivement renoncé à toute forme de virilité le jour où ils sont montés sur une trottinette électrique. Chuck ne mange pas de tofu, Chuck ne met pas de crème de jour, Chuck ne met pas de crème de nuit, Chuck est hermétique à toute forme de coquetterie, il ne porte même pas de montre, un dicton texan dit d'ailleurs « Chuck Norris ne porte pas de montre, il décide de l'heure qu'il est ». Plus qu'un acteur, Chuck Norris est un emblème de l'Amérique qui gagne, de l'Amérique qui ne se laisse pas marcher sur les pieds.
« Attention où vous mettez les pieds, je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule ».
Mais que reste-t-il à Audiard? Vous venez d'entendre un extrait de la série culte qui a permis à Chuck Norris de devenir une caricature de lui-même, Walker Texas Ranger. Une série que je conseille quand vous voulez offrir un break à vos neurones après avoir trop cogité devant Black Mirror. Elle offre une vision rassurante de l'univers qui se divise de manière assez simple entre les gentils, qui sont les policiers texans, et les méchants qui embêtent les policiers texans, mais jamais bien longtemps, parce que dès que Chuck sort son gros magnum et déclare
« Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux !»
le méchant s'incline et va prendre rapidement sa carte au parti républicain. Seul point fort de la série, les scènes de combat. Car ne l'oublions pas, c'est un programme qui a été conçu pour le texan moyen. Or,
Que se dit le Texan moyen lorsqu'il rentre à la maison pour s'avachir sur son lit à eau et cuver son pack de Bud ?
Moi, ce qui me détend, c'est de voir des gens se foutre sur la gueule.
Eh bien, ça tombe bien, foutre sur la gueule des gens, ça a toujours été la passion de Chuck Norris. Le petit Chuck voit le jour en 1940 sous le nom de Carlos Ray Norris dans l'Oklahoma. Je ne sais pas si vous connaissez l'Oklahoma, Stéphane.
L'endroit est minable.
Oui, enfin, disons que c'est très différent de Saint-Germain-des-Prés, oui, mais ça a son charme. D'origine irlandaise par son père et amérindienne par sa mère, il va au divorce de ses parents suivre sa maman en Californie. Mais voilà, n'aimant ni le surf, ni les Beach Boys, ni l'esprit libéral pernicieux qui souffle sur la côte ouest, Carlos décide de rejoindre l'US Air Force qui va l'envoyer en Corée du Sud. C'est là... Corée du Sud, Chine, tout ça. C'est là que ce garçon tonique découvre le Tsangsudo. Tsangsudo, un art martial typiquement coréen, où il va rapidement exceller, devenir champion, et il va même s'offrir le luxe de modifier ce sport pour l'importer aux États-Unis sous le nom de Tsangkudo, autrement dit la voix universelle, d'où son surnom ensuite Chuck. Ce qui est forcément pour ses adversaires beaucoup plus impressionnant que Carlos. À partir de là, on va vous dire que rares sont ceux qui ont essayé de toucher son papayou. Chuck Norris, en effet, n'est pas, comme on pourrait le croire, un comédien qui joue les gros bras à la télé, il est un gros bras tout court. À son retour de Corée, il fonde son école d'arts martiaux et devient, alors ça moi je l'ai découvert, cette fois champion du monde de karaté de 68 à 74. Or Stéphane, on peut penser ce qu'on veut des karatékas et de leurs petits peignoirs blancs.
C'est des travelots.
Par exemple, on peut penser ça. Il n'en reste pas moins que ce sont des gars qui ne plaisantent pas. Seulement voilà, être champion du monde de karaté, c'est cool, mais ça paye pas des masses. Chuck commence alors à donner des cours particuliers à des stars d'Hollywood, parmi lesquels Steve McQueen, qui un jour, comme dans une chronique de David, s'exclame « Tiens, mais au fait, pourquoi tu serais pas du cinéma, Chuck ?» Pas con, se dit Chuck, qui avait jamais pensé alors qu'il vit à Hollywood. Bon. Suit la rencontre avec Bruce Lee, qui lui permet de tourner dans La Fureur du Dragon, film culte des amateurs d'arts martiaux qu'on a tous vu, et où Chuck Norris incarne, Stéphane,
le prof de ski.
Non, le mercenaire rival de Bruce Lee dans la scène finale. Le public adhère, Chuck connaît alors une série de succès au cinéma, avec notamment les films Invasion USA et surtout Delta Force. Film nietzschéen, célébrant peut-être sans le savoir cette amor fati dont nous parlait Zarathoustra.
Voilà, fermez ta gueule, hein !
Non ! On veut négocier, vous entendez ? On veut négocier !
C'est trop tard. Delta Force, ils combattent la haine par passion de la vie.
Combattre la haine par passion de la vie. Telle sera l'obsession philosophique de Chuck Norris qui sera le témoin de bien des atrocités, notamment le scénario invraisemblable de Delta Force 2 où, grisé par le succès du 1 et voulant repousser les limites de l'horreur, les scénaristes avaient en fait plutôt repoussé les limites du ridicule.
Notre contact dans le village est une indienne. Elle s'appelle Kikina Eskintela.
Ramon a d'abord tué son mari. Puis il a assassiné son bébé. Et dans le corps de l'enfant, il a passé des kilos de cocaïne. Et il a violé la fille. C'est peut-être pas nécessaire de lui en parler, comme vous la verrez. C'est une jeune femme très sensible.
C'est authentique en plus.
C'est authentique, hein. Évidemment, ça c'est pas un détournement, c'est un extrait du film Delta Force 2. Sa bio Wikipédia nous apprend étonnamment qu'après le bide de Delta Force 2, la carrière de Chuck va connaître un léger passage à vide. Ce n'est que 10 ans plus tard que sera lancée la série dont on parlait, Walker Texas Ranger, ou les tribulations de Cordell Walker, Texas Ranger de Dallas, champion d'arts martiaux, ancien Marine et fervent patriote amateur de gros pick-up qui suce. Le saviez-vous, c'est Chuck Norris lui-même qui interprète la chanson du générique.
Oui.
Alors pourquoi ? Eh bien parce que Chuck Norris sait tout faire. Exploser des sternums avec son pied, dégommer des trafiquants de drogue avec son gun, mais aussi chanter et écrire. Puisque, outre des biographies, Chuck est également l'auteur d'ouvrages sur la religion et la politique. À l'instar d'Arnold Schwarzenegger, il se serait d'ailleurs bien vu gouverneur du Texas. Il avait même écrit en ce sens à Barack Obama. Hélas, certains passages de son courrier mentionnant son projet d'indépendance pour le Texas n'avaient évidemment pas convaincu le président. Un échec politique qui n'entame pas la légende de Chuck, véritable phénomène sur Internet, les Chuck Norris Facts, Stéphane. Un site délicieux où les fans de Chuck rivalisent d'imagination pour livrer des aphorismes à la gloire de leur musculeux héros. Le second degré y est évidemment roi. Quelques exemples. Les enfants portent un pyjama Superman. Superman, lui, porte un pyjama Chuck Norris. Chuck Norris ne ment pas, c'est la vérité qui se trompe. Chuck Norris fait pleurer les oignons. Et mon préféré, mais ça vous comprendrez pourquoi, les Suisses ne sont pas neutres, ils attendent juste de savoir de quel côté se range Chuck Norris. C'est finalement au cœur d'une terrible rumeur que Chuck fait son retour sur le devant de la scène en 2020. On le déclare mort du coronavirus. En effet, il l'a contracté, mi-mai, ça c'est vrai. Puis le 28 mai, Internet le dit monté au ciel des Rangers, avant de le voir réapparaître 2 semaines plus tard. En fait, en pleine forme, un simple mème aurait été pris au pied de la lettre et s'est répandu comme une traînée de poudre. À 80 ans, il est encore et toujours incassable. Le 21 janvier prochain, Walker Texas Ranger sera de retour pour un reboot sur une chaîne américaine, mais sans Chuck. et Walker Texas Ranger sans Chuck Norris. C'est comme Stéphane Bern sans permanente, comme un aligo sans compter, comme un baba sans rhum. Ça n'a aucun sens. Car on se le dise, qu'on se le dise, Chuck Norris est indestructible. Il a survécu et il survivra à tout, comme il l'expliquait d'ailleurs à Stallone dans Expendables.
J'ai aussi entendu dire que t'avais été mordu par un cobra royal.
Oui, c'est vrai, oui. Mais après nos jours d'atroces souffrances, il a fini par mourir.
Ça, c'est mon Chuck. Indestructible, Stéphane, je suis content de vous avoir fait découvrir
un nouveau
personnage historique à côté duquel vous étiez passé complètement à côté.
Complètement, hein.
Dimanche, vous ne regardiez pas Walker Texas Ranger.
Non.
Il y avait un Chuck Norris fact qui m'avait plu, moi, qui était Chuck Norris sait où est Ornicard.
C'est drôle. Il y en a plein comme ça, il y a des gens qui se creusent la tête pour trouver des petites phrases.
Merci, mais que tout était à peu près vrai.
Tout est, mais là, pour
à
une fois,
la Ligo ne se fait pas avec du comté, mais.
La Ligo ne se fait pas avec du comté.
Ah, pas, non.
De plus en plus, dans cette chronique, je glisse des pourcentages faux qui sont indépendants de ma volonté. Et qu'est-ce qu'on met dans le comté, alors, Olivier Pousse?
Prenez donc une bonne tome.
J'ai simplement confondu la tome et le comté. Et pour un Suisse, c'est un crime de lèse-majesté.
Europe 1, historiquement vôtre.
Nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement vôtre, dédiée non pas à un retour vers le futur, mais un retour vers le présent, parce qu'on était parti loin, loin dans le passé.
Oh, très, très loin. Oui, Stéphane, avec nos chroniqueurs, on remonte aux origines de notre quotidien. Un quotidien fait de blanquettes de veau et de Tipex. Mais pas uniquement. La preuve, s'il en fallait une, avec les deux thèmes du jour. Olivier Pousse, quelle recette allons-nous découvrir aujourd'hui?
Je vous emmène en Bretagne déguster le phare.
Le phare breton. Pas de piège, il est bien breton.
Ah oui,
il n'est pas normand.
Il est 100% breton.
Il n'y aura pas de polémique dans cette chronique.
Non, mais vous verrez quand même qu'il y a une petite spécificité dedans qui fait qu'il n'est pas à 100% breton.
Le mot de la fin reviendra à Stéphane Bern. Oui. Chaque jour, vous nous décryptez une expression commune, se faire alpaguer.
Oui, pour se faire alpaguer.
D'où ça vient l'expression se faire alpaguer? Vous le saurez avec Stéphane Bern en fin d'émission. Mais tout de suite, David Castello-Lépez, l'origine d'un objet du quotidien qui est revenu en grâce un peu ces derniers temps.
C'est le caouet qui, jusqu'à assez peu de temps, faisait partie des vêtements très utiles, mais dont l'utilité se payait du décès de votre style vestimentaire. C'est-à-dire, fallait choisir. Soit vous préfériez être sec, auquel cas vous mettiez un caouet, mais du coup vous cessiez d'être cool. Soit vous préfériez être cool, auquel cas vous mettiez pas de caouet, mais vous cessiez d'être sec. Vous voyez, fallait choisir. Alors pourquoi est-ce que le caouet, traditionnellement, c'était pas cool? Pour vraiment plein de raisons, mais je vais me contenter d'en citer deux. La première, c'est que le caouet, quand on bouge, ça fait du bruit. J'en ai ici un avec moi, vous voyez, ça fait ce bruit, ça. Et ça, c'est pas cool, ça.
Et
c'est
encore,
vraiment...
il est plus souple que ceux de
Il est un petit peu plus souple qu'à l'époque, mais c'est-à-dire que à chaque fois qu'on tourne la tête, ça fait ce bruit-là, c'est pas terrible, c'est pas sexy.
On peut pas vous dire qu'on peut pas mener une filature discrètement, quoi.
Exactement, on est habillé en plastique, quand même. Hein. Et la seconde, c'est un travers sur lequel Danny Boone a mis le doigt avant moi dans son sketch sur le caouet, et à savoir que lorsqu'on porte un caouet avec une capuche et qu'on tourne la tête, eh bien la capuche, elle reste au même endroit, ce qui est à la fois ridicule et dangereux. Mais tout ça, ça nous dit pas d'où vient le caouet. Alors, il y a deux modèles principaux de caouet. Il y a ce qu'on appelle le Claude, qui est une sorte de gilet imperméable avec une fermeture éclair. Mm-hmm. C'est celui que j'ai apporté ici. Une fermeture éclair qui va jusqu'en bas.
Il y avait celui qu'on se mettait par en dessous.
Oui. Tout à fait. Celui-là, c'est le Léon. Qui est un peu une sorte de pullover en plastique.
Exactement.
Si vous voulez.
Ah, vous étiez Léon, vous.
Moi, j'avais pas le choix, j'avais ce qu'on m'achetait.
Hein. Oh, pauvre enfant.
Alors, pourquoi Léon? Pourquoi Claude? Eh bien, pour le savoir, j'ai d'abord pris le train jusqu'à Lille, ensuite j'ai pris un taxi, je suis allé en Belgique, quelques kilomètres derrière la frontière, et là, j'ai rencontré un monsieur.
Bonjour, je m'appelle Léon-Claude Duhamel, et c'est moi qui ai inventé le caouet.
Léon-Claude Duhamel.
L'inventeur.
Le Léon et le Claude. Parce que c'est les deux prénoms de l'inventeur du caouet. Alors, Léon-Claude Duhamel, il est né en 1935 dans une petite ville de la banlieue de Lille qui s'appelle Touflers.
Et depuis, il est passé en Belgique.
Voilà. Exactement.
Parce que le climat, il est meilleur.
Et vous savez qu'une des choses qu'on fait dans le Nord très bien, c'est le textile. Et donc, Léon-Claude, il a fondé une entreprise de textile avec l'aide de son père, qui en avait déjà une. Et il a cherché assez vite des nouveaux trucs cool à faire pour avoir plus de succès. Et puis un jour, en 1965, il était attablé à la terrasse du Café de la Paix, à Paris, et il a vu passer une mère avec deux enfants qui avaient des blousons rouges, des sortes de cirés, et il s'est dit quelque chose d'assez général, d'après ce qu'il m'a dit, du genre « Tiens, si j'inventais un blouson pratique et sympa ?» Il s'est mis au travail, et il a fait un prototype qu'il a appelé « En cas », sous-entendu « En cas de pluie ». Mais il y a un publicitaire qui l'a convaincu que les États-Unis c'était plus cool que la France, alors il a enlevé le « en » de « en cas », Il a transformé le K, C-A-S, en lettre K, et il a mis le mot anglais way après, et voilà, K-way, du coup, alors ça veut plus rien dire du tout, hein.
Ah non, ça veut plus rien dire, hein.
Que dalle, mais ça sonne bien, la preuve, hein, on s'en souvient, K-way, voilà. Le premier K-way, il a été vendu en 1966, à un moment où quand même la société française et la société des pays développés en général commençaient à avoir plus les moyens de faire des activités de plein air, genre la randonnée, genre la voile, tout ça, et le K-way, c'est super adapté pour ça, et les pubs de l'époque, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'elles disent, exemple...
Pour les mordus du bateau. Pour les amoureux de la nature, K-way le vrai.
K-way le vrai. Voilà, bref, c'est un carton absolu. Entre 1966 et 1992, il y a 45 millions de K-way qui sont vendus. Mais il y a un moment où c'est retombé. En fait, il y a plein de contrefaçons qui ont inondé le marché. Et K-way était dans la merde. Ça a été racheté par plusieurs groupes les uns après les autres. Et aujourd'hui, K-way, ça appartient à une entreprise italienne qui a réussi à le faire renaître sous la forme d'une marque de luxe. Et ça a été un comeback comme on en a vu quelques-uns ces dernières années. Genre le coq sportif, par exemple, c'est la même chose. Où K-way est passé en 3 minutes du ringard absolu au cool total. Mmh. Les boutiques K-way aujourd'hui, elles ressemblent à des bijouteries. Les mannequins qui les portent sur les pubs, ils font la gueule pour montrer que c'est cher. En gros, le K-way est devenu tendance...
Ils font la gueule parce que c'est cher.
Parce que c'est cher, peut-être. Le K-way est donc devenu... tendance, et aujourd'hui donc rester sec tout en restant cool, c'est possible, mais bien sûr il faut avoir les moyens, parce que quand on était petit, Mathieu, un K-way ça coûtait quelques dizaines de francs.
Mais oui,
aujourd'hui le K-way de base, hein, comme celui que j'apporte ici, ça coûte 100 euros, et ça peut aller jusqu'à beaucoup plus cher. Alors j'ai posé la question à Léon-Claude Duhamel, pourquoi, hein, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où ça coûtait 40 francs et maintenant ça coûte 100 euros, et il m'a dit je sais pas, hein, parce que franchement le produit est pas très différent, mais si j'avais réussi à les vendre à ce prix là ça aurait été fabuleux. Bon, moi il reste que
ça va pas aller en Belgique, mais en Suisse.
Oui, ouais, c'est ça.
Ouais. Plus loin, le climat est encore meilleur.
Exactement. Moi, il reste que j'ai quand même une certaine tendresse pour le K-way, et en particulier pour le son qu'il fait quand on bouge. Et donc, en hommage à ce son, hein, celui-là, j'ai composé pour vous une toute petite musique dansante avec des bruits de K-way. C'est très court, c'est pas vraiment fini, mais c'est assez sympa. Je vous propose de l'écouter.
Daft Punk portugais.
Et voilà, tout ça avec des bruits K-way. Bon, pas tout, hein, il y a aussi du synthétiseur et des cuivres, mais il y a quand même, faire de la percussion.
La percussion avec des K-way.
Exactement.
Voilà, ça sert à tout. Merci David, on retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.
Et une région, Stéphane, où le K-way est fort utile, c'est la Bretagne.
Hein. Oui.
On préfère un beau ciré là-bas quand même.
Le K-way revient à la mode, on l'a dit, hein, en Bretagne aussi, et en Bretagne on mange du sar breton.
Puis surtout, on peut en manger un certain nombre, parce que c'est vrai que
ça ne se voit pas sur le K-way. Le K-way gomme la silhouette.
Ah non, il y a des K-way fit maintenant.
Oui, c'est vrai qu'ils sont ajustés maintenant. Stéphane, vous emmenez dans une boutique K-way.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il est la seule personne que je connaisse qui, lorsque vous lui demandez si ça va un lendemain de cuite, vous répond
« Bah, une petite chartreuse, quand même, ce serait pas mal pour me remettre d'aplomb. »
Une force de la nature, un gourmand éternel, Olivier Pouls. Chaque jour, l'histoire d'une recette. Aujourd'hui, l'histoire d'un petit gâteau.
Mais oui, Stéphane, vous me confiez tout à l'heure que vous n'aviez pas beaucoup mangé pendant les fêtes, non, et qu'en ce moment, vous étiez particulièrement fit.
Je recherche quelques calories. Ah non, c'est pas la tablette, c'est la mousse, là.
La mousse, là, oui.
Eh bien, j'ai le dessert ou l'encas qu'il vous faut pour vous redonner un petit peu de force. C'est le fameux phare breton, le farsforn, comme on dit là-bas en breton, qui est une spécialité qui voit le jour au XVIIIe siècle. Au départ, en fait, il s'agit plutôt d'une préparation salée. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le king of fars, qui est une grande spécialité bretonne. Le king of fars, ça vous dit rien?
Non.
C'est le pot-au-feu breton. Donc, c'est un plat de viande cuit dans un bouillon dans lequel on place un sac. Et dans ce sac, on met de la farine de sarrasin mélangée à des œufs avec un petit peu de crème. Et on cuit ce mélange dans le sac et dans le bouillon. Et c'est probablement l'ancêtre de ce qui va ensuite devenir le phare breton. Dessert et pâtisserie, parce que la base est la même. Et au départ, c'est plutôt, comme beaucoup de plats d'ailleurs, des plats de pauvres, et en s'embourgeoisant, ben, on va d'abord rajouter du beurre, on va rajouter ensuite du sucre, et c'est ce qui va donner la base du phare breton. Mais si vous avez
c'est déjà... quoi la différence avec le Queen Amman?
Alors ça n'a rien à voir.
Je sais pas, c'est breton.
C'est plutôt avec le flan. Oui.
Oui, c'est plus proche du clafoutis ou du flan. La base, c'est une base clafoutis.
Ah, mais vous
ou
voyez,
flan.
Oui. Alors j'étais très loin là.
Non, non, mais
il
n'y a pas
de pâte. D'accord, il
n'y a pas de pâte. Ça ressemble à un clafoutis. Et souvent dedans, on y trouve des pruneaux.
Oui.
Alors c'est ça qui est un peu étrange, parce que on peut pas dire que la Bretagne soit une grande terre.
Qu'est-ce qu'ils foutaient les pruneaux?
Qu'est-ce qu'ils foutaient? C'est les marins bretons qui ramenaient des pruneaux et qui surtout utilisaient beaucoup de pruneaux quand ils partaient en mer, parce que non pas pour certains effets que je vous laisse imaginer, mais plutôt parce que c'est un peu tonifiant, ça se conserve facilement.
Vous avez pris la posture de Chuck Norris là, on ne sait pas pourquoi.
Ben oui, parce que ça donne de la force. C'est des légumes qui prennent, enfin des fruits pardon, qui prennent pas beaucoup de place, comme c'est séché, ça se conserve longtemps. Donc on mettait des pruneaux dans le fond du plat et ensuite on venait couler cette préparation, ce qu'on appelle l'appareil, qui ressemble effectivement un petit peu à un flan. Alors si vous voulez, je vous donne une recette.
Oui, volontiers. Assez facile à faire. Si c'est pas trop compliqué.
Non, jamais.
Il faut des œufs, à mon avis.
Il vous faut 4 œufs, 100 g de sucre, 250 g de farine, 1 litre de lait, 100 g de beurre de sel, ça Stéphane, on peut pas y couper, 100 g de pruneaux, justement, et un petit trait de rhum pour l'aromatiser aussi. Alors on fait donc tout simplement un appareil à flan, donc on mélange les œufs, le sucre, on rajoute la farine, puis le lait, le beurre fondu, hop, la petite goutte de rhum, on va dans le fond d'un plat disposer nos pruneaux, on va beurrer le plat de manière à ce que ça n'accroche pas trop, et puis la spécificité aussi du phare, c'est qu'on le cuit assez longtemps à une température pas trop haute. Donc 150 degrés, four à chaleur
tournante.
Exactement. Cuisson une heure et quart, de manière à ce qu'il reste bien moelleux et que vous ayez donc, quand vous allez plonger votre cuillère dedans, tout là, le moelleux de la pâte et puis tac, les petits pruneaux qui arrivent et qui viennent égayer les papilles.
Tac, les petits pruneaux. Voilà qui donne envie, Stéphane.
Ça donne très envie. Mmh. Si vous voulez retrouver la recette d'Olivier et toutes les recettes d'Olivier Poul, c'est bien aller sur le site d'Europe1.fr.
Stéphane, vous qui êtes très connu, immensément connu, ça doit vous arriver tous les jours, vous faire alpaguer dans la rue.
Oui, mais gentiment.
Oui, gentiment.
Alors que l'origine du mot alpaguer est beaucoup moins sympathique.
Nous allons découvrir dans quelques secondes.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Chaque jour, il nous livre le mot de la fin, son mot de la fin, l'explication d'une expression ou d'un mot qu'on utilise. J'espère qu'on sera là ce jour-là aussi pour le vrai mot de la fin. J'espère qu'Europe 1 aura l'exclusivité.
Ça sera peut-être une sorte de gargarisme.
Un gargarisme. Vous finirez par un gargarisme. Pourquoi pas? Stéphane, le mot de la fin, c'est l'explication d'une expression qu'on utilise tous les jours, ou en tout cas de temps en temps. Aujourd'hui, alpaguer.
Oui, Mathieu, quand un malfrat se fait attraper ou quand on a mis la main sur l'auteur d'un larcin, on dit qu'il s'est fait alpaguer. Se faire alpaguer, c'est vrai? D'où vient cette expression?
Alors, alpaguer, le mot ressemble, je l'ai dit tout à l'heure, à alpaga.
Mais... Oui, vous aviez l'impression d'avoir dit une bêtise.
Oui, j'ai eu l'impression de dire une grosse
connerie. Et bien.
C'est pas le cas.
Lien est tout trouvé. Oui, Mathieu, au milieu du 19e siècle, les hommes de la haute portaient des vêtements confectionnés avec de l'alpaga. Du nom, vous savez, de ce sympathique mammifère ressemblant à un mouton au long cou, originaire de la cordillère des Andes. L'expression vient donc de l'argot. Ainsi, quand les gardiens de la paix procédaient à l'arrestation d'un margoulin, ils le saisissaient promptement par le col du manteau, en alpaga donc, où se faisait donc naturellement alpaguer. On disait même à l'époque avoir la police sur l'alpague. Dans la même veine, et pour dire la même chose, on utilisait la formule « tomber sur l'alpague », qui est devenue « tomber sur le dos ». Ça donnait aussi « tomber sur le râble » et « tomber sur le paletot ». Le paletot, encore une fois, c'est un vêtement, pas forcément en alpaga. Au XXe siècle, le mot « alpague » devient définitivement un verbe « alpaguer ». Et consécration, Philippe Labro porte sur grand écran les aventures de Belmondo et Bruno Kremer en 1976, qui joue dans le film « L'alpagueur », un ancien chasseur de fauves reconverti dans la chasse aux malfrats. Rien que pour les cascades, ça vaut le coup de ressortir son magnétoscope, si on en a un.
Si on a encore un magnétoscope, est-ce que quelqu'un a un magnétoscope autour de cette table?
Moi j'en ai encore, mais toutes les cassettes VHS sont mortes.
Ah oui, même celle
qui s'efface à force.
Elles n'ont pas survécu.
Il faut faire tout digitaliser, Stéphane, avant que tous ces beaux souvenirs d'enfance, où vous courir en culotte courte ou en Kawé Léon, ne disparaissent à jamais.
En tout cas, voilà, alpaguer, vous voyez, ça vient de l'alpaga, à l'époque, on avait des manteaux en alpaga. Maintenant, on porte des Kawé.
Changement d'époque.
On va se faire kawétiser.
Notre spécial, ils ont défrisé et parfois frisé eux-mêmes. La caricature se termine. Stéphane, lequel de nos personnages vous a le plus marqué aujourd'hui ? Honoré Daumier, Cabu ou Chuck Norris ?
Alors écoutez, ma curiosité, vous la connaissez, c'est toujours, va toujours vers ce que je ne connaissais pas.
Oui,
je ne savais pas qui était ce monsieur Chuck Norris.
Chuck Norris.
J'en avais entendu parler. Votre portrait m'a
édifié. Maintenant, vous pouvez, vous pourrez parler de Walker Texas Ranger dans vos dîners.
Exactement.
Dans les plus hauts.
Et de Delta Force 2 qui m'a beaucoup. Ça m'a donné envie de le regarder.
C'est un dynamisme.
Encore ressortir le magnétoscope.
Ah oui aussi. C'est encore mieux quand la VHS s'efface. Demain, Stéphane, un sujet délicat pour moi. En effet, j'avais essayé d'expliquer à mon fils que j'étais le chef de cette émission, mais il a écouté notre émission. Il m'a dit : Ok, papa, tu es peut-être le chef, mais alors Stéphane Bern, lui, c'est le chef du chef. Je lui dis : Ok, tu me saoules, va voir ta mère. Bref, demain, nous évoquerons les chefs des chefs.
Oui, mais il fallait expliquer, Mathieu, à votre fils que c'est pas les chefs des patrons, c'est les chefs cuisiniers des chefs. On appelle chef des chefs, c'est ceux qui ont cuisiné pour le pouvoir, pour les rois, pour les tsars, pour les présidents. On réunit Antonin Carême, Pierre Cuba
et Guillaume Gomez, le chef de votre chef préféré, le chef d'Emmanuel Macron.
Bon, qui il a fait tous les présidents.
Ouais,
aussi.
C'est vrai qu'il a fait Sarkozy et Hollande, entre autres. Mais sinon, on est d'accord, il n'y a pas vraiment un de nous deux qui est plus chef que l'autre, Stéphane.
Ah ben non.
Voilà.
Ah non, vous êtes un chef.
Et c'est important que mon fils l'entende.
Ouais,
l'image de son père et tout ça.
Pour aujourd'hui, c'est vous le chef.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.